Direct en jeu de Radio Insolite, toujours encore dans la balade sur la culture et sur le théâtre. Mais dois-je parler de théâtre avec ce jeune homme? Vous le connaissez sans le connaître. Imaginez, section de recherche, Bonaparte, nos chers voisins, scène de ménage, Alice Nevers, et je n'en dis pas plus. Il a même été faire des pubs pour Babybel, pour Calgon, pour le PMU, pour la SNCF. Oh là 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 là, bonjour Thomas.
Incroyable, hein, incroyable.
Bonjour à tous. Incroyable, mais vrai.
Comment on peut passer de section de recherche à Babybel? C'est ça qui est dingue.
Mais non, c'est surtout, dans tout ça, tu as quand même eu l'occasion de travailler avec Anne Bourgeois.
Anne Bouvier, pas Anne Bourgeois, Anne Bouvier.
Non, Anne Bourgeois pour le stage de clown.
Ah oui, totalement. Oh là là, oui, bien sûr, j'ai fait un stage de clown, parce qu'elle est passionnée de clown, Anne Bourgeois, formidable. Et j'ai fait un stage, effectivement, pour découvrir mon clown. Et j'étais un clown mutin, d'ailleurs.
Ah d'accord, je vois. Et alors, puisque tu as trahi son nom, qui est Anne Bouvier?
Alors Anne Bouvier, c'est une metteur en scène qui bosse beaucoup, beaucoup à Paris, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur deux projets en l'assistant à la mise en scène. Voilà, elle a eu, c'est une grande comédienne à la base, elle a eu notamment un Molière pour Mademoiselle Molière, qu'elle a joué et qu'elle continue de jouer partout en France.
D'accord.
Voilà, c'est une femme absolument super, qui est aussi directrice, présidente plutôt de l'ADAMI, pour ceux qui connaissent. Mmh. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses dans le théâtre. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec elle et j'espère que ça se reproduira. Et Anne Bourgeois, oui, c'était plus en tant qu'élève, entre guillemets, dans un de ses stages de clown qu'elle faisait régulièrement. Je ne sais pas si elle en fait toujours, mais
d'accord.
En tout cas, à l'époque, c'était absolument génial.
Alors, tu n'étais peut-être pas né, mais tu es quand même un peu connu parce que tu avais un théâtre à ton nom il y a quelques années où j'ai.
Ah là là, mais oui, on m'en a parlé, on m'a dit ça, c'était précurseur.
Hein. Je sais qu'on a toujours pas donné ton nom, hein, les gens.
C'est vrai. Alors, est-ce que ça met sur la piste ou pas? Ça va en mettre sur la piste, certainement.
Ah,
ouais.
C'est dans le 17e arrondissement. C'était Avenue des Ternes.
C'est ça.
Thomas L'Empire, pour être précis. Allez, je vais le dire.
C'est moi.
Bon, on va commencer. Alors, évidemment, on se retrouve pour parler de quelque chose que j'ai trouvé très original. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui va évoquer la jeunesse d'un enfant. Mais ce n'est pas n'importe quel enfant.
Ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup. Pas tout le monde le connaît pas dans le détail, mais en tout cas connaît grosse partie de sa vie et de ce qu'il a fait, en tout cas quand il était plus âgé. Mais peu de gens, voire personne, maintenant nous aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet pour écrire la pièce, mais peu de gens connaissent l'enfant qu'il a été, et ça permettait de parler d'espoir.
Alors on parle de qui là?
On parle d'Albert Einstein. Albert Einstein, prix Nobel de physique. Ouais.
Exactement. Un enfant à part. Ben justement, avant de parler de lui, si on parlait de toi, tu es un enfant à part? T'es tombé dedans quand t'étais petit? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Alors, comment moi je suis tombé dedans? C'était une envie. Alors, je devais avoir 12-13 ans. Mes parents voulaient absolument me motiver, en tout cas, à faire une activité, comme on dit, extrascolaire. Mmh. Et c'est vrai que, n'étant pas très sportif, je dois l'avouer, pour pas dire pas du tout, comme je dis toujours, je suis croyant mais pas pratiquant en sport. Je me suis dirigé vers le théâtre, ça m'intriguait, j'aimais bien regarder à la télé, au théâtre ce soir, enfin les rediffs, quand il y avait des pièces. C'était assez rare, ça revient maintenant, mais à l'époque il y en avait quand même de temps en temps, j'aimais bien regarder. J'adorais le cinéma, etc. déjà petit, donc j'ai eu envie de tenter avec ma meilleure amie qui n'a fait qu'un an, moi je suis resté plusieurs années. Et ça a été un peu la révélation, il y a eu un atelier à l'école auquel je me suis inscrit aussi, j'avais eu des bons retours en plus... De celle qui nous enseignait le théâtre à l'école en me disant « Ah, t'as quelque chose à faire là-dedans, t'es vraiment super. » Bon, ok, je prends. Et après, il y a eu les études et tout, donc j'avais un peu lâché, en tout cas avant le bac. Et en arrivant à Paris, parce qu'après mon bac, j'ai quand même passé un BTS, rien à voir. Enfin, pas rien à voir, j'ai passé un BTS audiovisuel.
Bien.
Pour avoir un diplôme normal, comme disent les gens. Mais bon, quand même, j'ai choisi audiovisuel, c'était pas complètement anodin. Et ça me sert aujourd'hui d'ailleurs pour certains trucs. Et je suis arrivé à Paris pour travailler dans une chaîne de télé, dans les bureaux, hein, rien à voir. Mais je me suis inscrit tout de suite à un cours amateur à Paris, où j'ai rencontré pas mal de gens qui sont restés mes meilleurs amis aujourd'hui, avec qui j'ai des projets d'ailleurs. Et suite à ça, les rencontres font que à Paris, on commence à rencontrer rencontrer des gens du métier, des comédiens. Et on se dit, mais merde, en fait, ils ont un peu la vie dont je rêve. C'est-à-dire que moi, je vais tous les jours au bureau et j'en ai un peu marre. Et c'est vrai que le moment de ma semaine où je vis vraiment, bah, c'est mon cours de théâtre, quoi. Donc, j'ai décidé de tout lâcher, de faire une vraie école. Pas que les cours amateurs n'étaient pas des vraies écoles, hein, c'était des gens de talent qui nous enseignaient, mais en tout cas, voilà, avoir une vraie école sur 3 ans, et j'ai décidé d'aller au, voilà, un cours qui s'appelle le cours Dominique Virieux, où j'ai rencontré d'autres gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et de là, bah, voilà, ça s'est fait assez vite, hein. On monte une pièce avec les copains de cours, on joue dans un théâtre. Là, on rencontre d'autres gens qui jouent dans la pièce juste avant ou juste après, qui se trouvent justement être en train de renouveler l'équipe. Donc, on passe un casting et hop, on se retrouve dans la pièce d'avant, d'après. Puis là, on rencontre d'autres gens et puis on se fait très vite une famille. Et c'est comme ça que bah, j'ai la chance d'avoir toujours soit un projet en préparation, soit un projet en cours en étant sur scène. Donc, beaucoup, beaucoup de théâtre depuis.
Théâtre de tous les styles, ça peut être du traditionnel, de la comédie, du dramatique.
J'ai commencé par, je vais dire par la force des choses, mais il n'y a rien de négatif là-dedans, par la comédie, parce que la première pièce que j'ai jouée s'appelait Accalmie passagère. Donc on a joué avec des copains de cours au Théâtre d'Edgar à Paris, et mis en scène par Roland Marchisio. Génial. Et comme je disais, bah, de là on rencontre les gens. Voilà, qui bossent dans ce théâtre-là ou qui viennent nous voir, etc. Donc, la famille que je me suis faite au départ était plutôt dans la comédie. Donc, j'ai joué beaucoup de comédie. Et puis, certaines rencontres, après, ont fait que j'ai été amené à jouer d'autres pièces. J'ai jamais joué de grands classiques, j'espère, un jour. Mais j'ai joué dans des pièces, en tout cas, plus sombres. Je pense notamment à Stavanger, qui avait été mis en scène par Quentin de Falt, pour ceux qui connaissent. Et voilà, qu'on a joué à Paris et à Avignon. Voilà, il y a eu des pièces un peu comme ça. Là, je viens de monter avec une partie de l'équipe de Einstein, c'est-à-dire même metteur en scène, même auteur, une pièce sur Agatha Christie. Donc, sous forme de comédie aussi, mais bon, on n'est pas dans de la grosse comédie non plus. Donc voilà, j'oscille quand même dans plusieurs registres.
Toi qui viens de faire le Festival d'Avignon, mais ce n'était pas ton premier, est-ce que c'est un passage incontournable de faire Avignon ?
Alors, je ne sais pas si c'est incontournable. Moi, je trouve que c'est quand même une chance. Alors, c'est très fatigant. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a hâte d'y aller. Une fois qu'on y est, on fait « Ah là là, vivement que ce soit terminé ». Et puis, une fois qu'on part, on dit « Vivement l'année prochaine ». Donc, c'est assez marrant. C'est un passage incontournable dans le sens où c'est vrai qu'on y rencontre énormément de monde. C'est-à-dire que tous les gens qu'on a du mal à rencontrer à Paris, ben là, ils sont hyper accessibles. Que ce soit des comédiens, des metteurs en scène, des auteurs, tout le monde est là-bas pendant un mois. Donc ça, c'est vraiment un puits de rencontres extraordinaire. Après, il faut savoir en profiter aussi. Parce que bon, voilà, si on reste dans son coin, qu'on joue sa pièce et qu'on rentre, ça sert pas à grand chose. Après, c'est incontournable pour le travail, oui, bien sûr, dans le sens où on présente nos pièces. C'est une espèce de grand marché du théâtre. Et c'est ça qui fait que les professionnels, c'est-à-dire notamment les directeurs de salle de France et de Navarre, vont venir nous voir et éventuellement avoir envie de prendre la pièce dans leur théâtre, et ce qui nous permet de faire des tournées derrière. Donc, pour faire vivre une pièce, ça reste un passage incontournable.
Oui, c'est là où on voit tout le monde. Alors, je tiens à signaler qu'il n'y a pas que pour les comédiens que c'est épuisant. Nous aussi.
Et les programmateurs et même le public, hein, ah, oui, c'est épuisant. Ah bah oui. Il y a un monde incroyable, il fait chaud. Si on veut bien faire en tant que spectateur le Festival d'Avignon, on va voir 2, 3, 4, 5. Il y en a qui allaient voir même 10 pièces par jour, qui n'attendaient même pas les saluts dès qu'ils voyaient que c'était la fin de la pièce. Hop, ils partent pour courir parce que 10 minutes après, ils ont une autre pièce à l'autre bout de la ville, en se chopant vite fin sans doute sur la route. Enfin, c'est un vrai marathon. Mais voilà, ça fait partie du jeu, et c'est ça qui est chouette aussi.
Comment tu as fait pour arriver sur cette pièce donc, qui s'appelle Albert Einstein, un enfant à part ?
Alors, j'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Sylvia Roux, qui est directrice artistique d'un théâtre à Paris qui s'appelle le Studio Héberto, qui écrit beaucoup et qui a mis en scène dans le passé, qui joue, hein, qui est comédienne aussi, et qui m'a appelé en fait pendant le confinement en me disant, écoute, j'ai une amie à moi, Brigitte Kernel, qui a écrit un roman sur l'enfance d'Albert Einstein. Il faut savoir que Brigitte Kernel, donc, qui est auteure, romancière, elle est chez Flammarion, et Flammarion lui a commandé, c'est assez récent, un roman jeunesse par an, où elle a de la chance, et elle en est ravie, traiter de l'enfance d'un génie, tous les ans. au-delà de ce qu'elle écrit, entre guillemets, pour les adultes. Elle
D'accord.
a commencé, alors je ne vais pas dire de date, mais en tout cas il y a 2, 3 ans peut-être, par l'enfance de Léonard de Vinci. Et elle avait
D'accord.
adapté le roman en pièce de théâtre avec Sylvia Roux, justement, qui s'appelait Léonard de Vinci, L'enfance d'un génie, la pièce. Et le deuxième volet, le deuxième roman jeunesse qu'elle a écrit, c'est Albert Einstein, Le monde selon Albert Einstein.
D'accord.
Sylvia m'a appelé en me disant, écoute, là, on tient un truc, ce serait chouette de faire comme Léonard de Vinci, de l'adapter en pièce. Je pense qu'il y a un beau sujet sur Einstein, puisqu'on en parlera plus tard, mais c'était un enfant vraiment difficile et qui est arrivé à être un des plus grands génies qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a un vrai message d'espoir à faire passer. Est-ce que ça te dirait d'écrire l'adaptation avec nous? Donc moi, ok, banco, je lis le roman, je trouve ça génial. On commence à se voir pour écrire le roman, et très vite en écrivant, bah, on a eu envie de jouer dedans tous les deux avec Sylvia. Et on a écrit pour 3 personnes, donc voilà, ça je dirai après. Mais c'est en écrivant les rôles masculins, parce que je joue plusieurs rôles dedans, qu'on s'est dit, mais moi je veux le faire. Et Sylvia a dit, mais moi aussi je veux le faire. Au-delà d'écrire la pièce, on a envie de jouer dedans. Donc, bah, on s'est fait plaisir et on s'est imposé à la production. Voilà.
Alors, moi, d'après les infos que j'ai, vous êtes trois, il y a deux charmantes jeunes filles et il y a toi.
C'est ça.
Donc, je
C'est
suppose que
ça.
c'est
Donc, il y
toi qui
a.
joues Albert Einstein.
Et alors, voilà, c'est là le truc, c'est que ce n'est pas moi qui joue Albert Einstein. Tout le monde pense, en fait, à chaque fois qu'ils sortent de la pièce, ils disent, ah, mais incroyable, je pensais que tu allais jouer Albert Einstein. Bah oui, forcément, je suis le seul garçon avec 2 filles et on parle d'un petit garçon. Mais non, non, on a pris le parti et c'était un défi pour Sylvia de jouer ce petit garçon. Voilà. Sylvia a 40 ans et elle s'est dit, mais on est tous des grands enfants. On a tous été des enfants et on l'est tous encore. J'ai envie de jouer cet enfant. Et elle est absolument extraordinaire. Elle a eu d'ailleurs le prix de la meilleure comédienne là au Festival d'Avignon. Pour ce rôle-là, et elle a fait une composition de dingue, et tout le monde y croit, et non, c'est vraiment génial, c'était un vrai pari, et en fait, ça fonctionne à merveille, elle s'éclate, et non, non, on y croit à 100%, c'est génial.
D'accord. Quand vous avez écrit, vous avez, excuse-moi, vous êtes inspiré du livre, mais c'est la vraie réalité?
Oui, alors tout est vrai sauf une histoire. Alors pour ceux qui verront la pièce, j'espère que vous viendrez, je donnerai les dates plus tard. Il y a un petit détail qui a été inventé. On savait que Albert Einstein avait un petit chien duquel il était très très proche. Et donc on a inventé ce chien. Enfin, on a inventé. Non, le chien existait, mais on a inventé son prénom qu'on n'avait pas et qu'on a appelé Trouillard parce qu'il a peur des mouches. Et c'était une façon d'évoquer un petit peu bah, le fait qu'il faut aller au-delà de ses peurs et et de ses démons, entre guillemets. Alors, tout ça dans un esprit enfantin, c'est pour ça que là, il a peur des mouches. Mais voilà, c'est une façon d'aborder ce sujet-là. Et c'est un petit fil rouge, l'histoire du chien, dans le livre. Mais tout ce qu'on raconte, tout le reste, c'est vraiment passé. C'est 100% réel.
Non, parce que c'est vrai que bah, dans la présentation, on découvre qu'il était dyslexique. Bon, il était surdoué
Exactement.
aussi. Qu'il a peut-être, il est peut-être arrivé un peu trop tôt parce qu'il a été mal compris par son entourage. Donc tout
C'est
ça,
ça.
ça fait partie des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on regarde ce personnage.
Exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça super chouette et super important d'en parler. Voilà, parler d'une grande figure de la science comme ça, et voilà, de montrer que c'était un enfant très très compliqué, dyslexique, autiste. Aujourd'hui, on dirait autiste. À l'époque, le mot arrivait à peine. Dans les oreilles des gens, voilà, il y a quelques chercheurs qui commençaient à travailler dessus et à trouver ce terme, mais c'était pas encore répandu. Aujourd'hui, on le diagnostiquerait, bel exercice de diction, complètement autiste. À l'époque, voilà, c'est les prémices de l'autisme. Mais clairement, c'était un enfant autiste, colérique, qui avait du mal à parler. Donc voilà, dyslexie, qui dit pas pardon, il dit pradon, des choses comme ça. Donc voilà, une maman. Ben on est en fin 1800, hein, donc on a une maman qui comprend pas ce qui lui arrive, qui pense que son enfant ne fait pas d'efforts, que c'est un problème gérable. Elle pense pas du tout à un problème, à un handicap, entre guillemets. Donc voilà, c'est aussi au-delà du petit garçon qui se sent différent, qui a du mal à se faire des copains à l'école, qui est moqué, c'est aussi la relation avec les parents, quoi. La maman qui se dit mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je dois faire, et qui s'énerve parce qu'elle est désemparée face à cet enfant. On en parle beaucoup plus aujourd'hui. Maintenant, il y a des pédiatres, il y a des choses comme ça, mais Voilà, on est il y a plus de 100 ans, quoi. Donc voilà, ça permet de parler et de la différence chez l'enfant et de comment appréhender la différence chez l'entourage.
Il y a une phrase que j'ai adorée dans ce qui est présenté, c'est personne n'est nul, il suffit de croire en soi.
Mais ouais, c'est pas vrai, ça.
Mais là, on dépasse le stade d'une simple pièce de théâtre, entre guillemets. On a d'une part le fait de voir enfin, j'allais dire un physicien, un mathématicien, un physicien, quand même d'une manière complètement différente par rapport à son enfance, mais on voit que derrière, il y a aussi un combat de vie.
Exactement. Bah exactement. Mais la vie est un combat, j'ai envie de vous dire. Oui, il faut croire en soi, personne n'est nul. Bah y a, oui, il y a une question de confiance en soi dans tout ce qu'on fait de toute façon. Si on ne croit pas en nous, qui peut croire en nous? Nous, on nous le dit toujours. Je fais des ateliers avec des directeurs de casting pour rencontrer un peu du monde et à chaque fois, ils nous disent, mais si vous arrivez en n'ayant pas confiance en vous, comment voulez-vous que nous on ait confiance en vous? Bah oui, effectivement. Donc c'est aussi ce message-là, oui. Il faut croire en soi.
La pièce a été créée il y a combien de temps?
Alors, la première a eu lieu, bah, il y a tout juste un an en fait. On a joué la première fois en octobre 2021
D'accord, donc après le
au
confinement.
studio Héberto.
D'accord.
Exactement, oui, le temps de, bah voilà, hein, on écrit une pièce, faut trouver un producteur, un metteur en scène, etc. Un casting, puisqu'on était deux, mais il fallait une troisième personne. C'est la metteur en scène, donc Victoire Berger-Perrin, en fait, c'est un nom qu'on nous a pas mal soufflé quand on faisait lire la pièce à notre entourage. On nous disait, ah, mais la différence, l'enfance, tout ça, c'est quelque chose qui devrait beaucoup parler à Victoire Berger-Perrin, qui avait eu un gros succès avec En attendant Beau Jungle. Elle avait fait l'adaptation de ce roman qui avait été joué à Paris et qui avait vraiment cartonné. Donc on la connaissait de nom, mais pas dans le travail. On lui a fait lire, elle a adoré. Et c'est elle qui a pensé à Tadrina Hawking pour rejoindre le casting. C'était une comédienne avec qui elle avait beaucoup envie de travailler depuis longtemps et elle s'est dit, bah, c'est l'occasion rêvée. Donc, le temps, voilà, après de faire des lectures tous ensemble, voilà, on a proposé à des producteurs qu'on connaissait. Donc, c'est Hicham Fassifieri qui a dit banco. Et puis après, voilà, bah, l'organisation, hein, quel théâtre, ou enfin, quel théâtre, oui, comment, quand, etc. Donc, tout ça a mis un peu de temps pour arriver donc à la première en octobre 2021.
Le fait de jouer depuis quasiment un an, on se lasse pas.
Non, c'est vraiment un spectacle velours, quoi. Enfin, moi, c'est ce qu'à chaque fois ce que je dis.
Un spectacle velours, c'est joli.
Oui, bah c'est en fait, en tant que comédien, bon, le fait d'être sur scène, on adore. Le fait d'interpréter, on adore. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment, ça peut paraître bateau, hein, ce que je vais dire, mais c'est vraiment de délivrer un message. Quand on sort de scène et qu'on a l'impression d'avoir été une petite fourmi qui a fait voilà, un petit trou dans le nid, vous voyez, où voilà, on doit construire un palace et on a peut-être juste mis une brique, mais on a contribué à quelque chose, en tout cas à une avancée de pensée. On se dit, bah ouais, c'est peut-être pour ça que je fais ce métier-là, en fait. C'est même sûrement pour ça. Donc il y a un côté très pédagogique dans ce spectacle qui est un bonheur, en fait, à chaque fois. Et les retours du public à chaque fin de représentation vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça, non, c'est un bonheur à chaque fois de monter sur scène. Et puis autant devant les parents que devant les enfants, c'est aussi un spectacle qui rallie un peu. Parce qu'il y avait cette envie, en fait, c'est Sylvia qui disait ça, et je suis d'accord avec elle. Elle dit à Paris, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles, soit pour. C'est un peu. Comment c'est grossier de dire ça, mais il y a une partie de vérité. Il y a soit des spectacles en gros adultes, soit des spectacles enfants.
Oui, c'est ça, exact.
Voilà, c'est-à-dire que les spectacles enfants, c'est souvent des histoires de princes et de princesses, l'ogre, le machin, bon, ok. Et les spectacles adultes où les enfants vont pas pouvoir amener leur enfant de 6 ans. Ou alors ils vont s'ennuyer, quoi. Et donc, c'était de créer un spectacle que les adultes puissent voir venir juste entre adultes ou avec leurs enfants et où les enfants vont surkiffer. Et c'est pari réussi, on est trop content. Parce que c'est vraiment à partir de 6 ans et vraiment jusqu'à 100 ans. Jusqu'à n'importe quel âge. Voilà.
D'accord.
Donc c'est des gens qui viennent en famille, on a les parents et les enfants, on a des grands-parents avec des petits-enfants. Et ça fait l'unanimité, donc ça c'est top. Et donc pour toutes ces raisons-là, non, on ne se lasse pas. Et puis ça fait qu'un an, moi j'ai joué des pièces 5 ans. Donc là, un an, c'est un bébé encore, la pièce.
D'accord.
Elle va grandir.
Le théâtre de la Tour Eiffel, c'est vraiment l'un des endroits les plus réputés, les plus merveilleux pour jouer cette pièce.
C'est un écrin inespéré. Le théâtre de la Tour Eiffel, c'est un beau théâtre qui fait 500 places. Hein, c'est un grand théâtre qui a été entièrement refait à neuf, art déco. c'est-à-dire qu'il est refait à neuf, mais vraiment à l'identique presque de ce qu'il était auparavant. C'est le seul théâtre du 7e arrondissement qui est vraiment au pied de la tour, hein. Enfin, à quelques centaines de mètres, disons, c'est métro pour les Parisiens, soit Invalides, soit Iéna. Donc près du bord de Seine, ben, donc déjà c'est un quartier magnifique, et le théâtre est magnifique, voilà, 500 places, Art déco, tenu par Rémi Cassia et Christelle Chollet, voilà, on a été accueillis comme des rois là-bas, et on fera notre deuxième saison, parce qu'en fait à partir de, donc on a joué de octobre à décembre l'année dernière au studio Héberto, et on est revenu au printemps au théâtre de la Tour Eiffel. Et donc, on a une proposition de refaire une saison au théâtre de la Tour Eiffel, là, à partir du 15 octobre. Donc, on y retourne avec grand plaisir. C'est vraiment un sublime théâtre.
Et vous allez jouer tous les jours?
Alors, on va jouer le samedi à 14h. On a vraiment des créneaux familiaux, hein. Donc, le samedi à 14h, le dimanche à 11h.
D'accord.
Pour les gens qui cherchent des activités le matin avec les enfants qui se sont levés tôt. Eh ben, ils pourront venir voir Albert Einstein le dimanche à 11h. Donc ça, ce sera vraiment du 15 octobre au 31 décembre. Et en plus, pendant les vacances scolaires, donc de la Toussaint et de Noël, on jouera tous les jours de semaine, sauf le lundi, à 16h30.
Attends, refais-le. À quelle heure?
Donc, à 16h30.
16h30, j'ai entendu 7h30. 7h30, c'est un peu tôt pour les théâtres.
Là, ça fait très très tôt. Non, non, 16h30 à l'heure du goûter. Voilà.
16h30, ok. À l'heure
voilà,
du goûter.
Ça, c'est du... Du mardi au vendredi, 16h30 pendant les vacances scolaires, et sinon tout le temps à 14h le samedi et à 11h le dimanche.
Je suppose qu'on trouve toutes ces informations sur les sites du théâtre de la Tour Eiffel.
Oui, sur tous les sites habituels et notamment le site de la Tour Eiffel, bien sûr.
Parfait. Bah écoute, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter?
Eh bah, que la pièce continue de marcher, qu'elle voyage de plus en plus. Là, on a fait notre première date de tournée à Tahiti. Ça a de la gueule quand même, hein. Au mois d'août là. Et suite à Avignon, il y a pas mal de dates de tournée qui se dessinent. Donc le but, c'est de, bah voilà, de faire une plus grande tournée possible pour aller porter la bonne parole le plus loin possible et au plus grand nombre de gens possible. Et puis peut-être revenir bientôt avec l'enfance d'un autre génie. Ce serait super.
Pourquoi pas. En tout cas, on aura toujours plaisir à t'accueillir pour parler de ton
actualité. Avec grand plaisir.
Bon,
c'est adorable, merci beaucoup.
Ouais, en tout cas, maintenant, ça y est, j'ai Tahiti dans la tête. Ça, c'est pas juste. Hein.
Ouais, j'ai appris trois mots. J'ai appris Yaorana. Alors, Yaorana, c'est bonjour. Merci, Maororo. Et au revoir, Nana. Voilà.
D'accord. Moi, j'en connais qu'un, mais
tu
c'est ce que je vais dire pour clôturer. C'est Toy Toy.
Et Toy Toy.
Toy Toy, ça, c'est le domaine du théâtre. Merci à toi.
C'est ça. Merci à vous. Merci à tous.